RCF. Pauline Jaricot est une figure étonnante de l'Église française du XIXe siècle. C'est une laïque qui ne fait pas le choix de la vie religieuse. C'est une femme qui, malgré la domination masculine de l'époque, n'hésite pas à entreprendre. Et c'est une bourgeoise de naissance qui va quitter tout le luxe de son milieu après avoir entendu un sermon sur la vanité. Aujourd'hui reconnue bien heureuse, Pauline Jaricot va terminer sa vie dans l'extrême pauvreté, à l'opposé de ce que ses origines sociales pouvaient laisser supposer. 160 ans après sa mort, elle a laissé une trace durable dans l'Église. Son œuvre pour la propagation de la foi continue de soutenir l'élan missionnaire à travers le monde. Et son rosaire vivant, une prière qu'elle a rendue accessible au plus grand nombre, existe toujours. Pauline Jaricot était une femme de son temps, mais aussi de sa ville, Lyon. La capitale des Gaules continue aujourd'hui de raconter sa Pauline, comme l'appellent encore affectueusement ceux qui la prennent comme modèle. Lyon possède deux collines, celle qui prie, Fourvière, et celle qui travaille, la Croix-Rousse. Toute sa vie, Pauline Jaricot a fait le lien entre ces deux mondes, le monde spirituel et le monde du travail, aussi bien du côté de l'église que des ouvriers canuts.
Ok, Peter, est-ce que vous pouvez tous vous regrouper, s'il vous plaît, ici, devant Fourvière ? D'accord, on va profiter de cette magnifique vue sur Lyon, sous la magnifique basilique de Fourvière. Alors, on y va ?
Pour raconter l'histoire de Pauline Jaricot, commençons par monter à Fourvière. Notre guide s'appelle Colette Tempère. Elle fait partie des bénévoles qui animent un parcours lyonnais de visite sur les pas de Pauline Jaricot.
Vous voyez, là, sur la façade, nous avons de chaque côté de la Vierge des sculptures, la chrétienté lyonnaise. Cette plaque, cette frise de sculpture, on la nomme d'une manière globale la chrétienté lyonnaise. Et dans cette chrétienté lyonnaise, on a le curé d'Ars, on a le père Chevrier, Frédéric Ozanam, on a les pères Collin et Champagnat, et on a Pauline Jaricot qui se trouve ici, au milieu de la frise. Elle est entourée de dames qui viennent la supplier de les aider. Et elle distribuait des chapelets. On sait que Pauline Jaricot a institué trois œuvres. L'œuvre de la propagation de la foi en 1822, l'œuvre du rosaire vivant en 1826 et plus tard l'œuvre des ouvriers. Alors pour Pauline Jaricot, il y a trois dimensions dans son apostolat. On a donc cette œuvre de la propagation de la foi, c'est son action en faveur des missions, mais les missions ici et là-bas. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas seulement dans les pays lointains, mais c'est aussi où on habite. Hein. Son rosaire vivant, c'est pour faire apparaître la nécessité de la prière, enraciner l'action dans la prière. Et l'œuvre des ouvriers, c'est vraiment le summum de son action sociale. C'est très très rare, elle est vraiment pionnière au XIXe siècle, une femme en plus, qui crée une œuvre pour les ouvriers. Et pour moi, c'est vraiment remarquable. Comment aider ces ouvriers qui, entre guillemets, sont exploités dans les usines, parce que au XIXe siècle, c'était le cas. Hein. Voilà. Alors disons que c'est l'aspect de la personnalité de Pauline qui a fait que je me suis attachée à cette personnalité et que depuis que je suis ici sur le site de Fourvière, je suis chargée par la Fondation Fourvière de former les nouveaux bénévoles. C'est moi qui les forme à la connaissance de Pauline Jaricot.
Quand vous parlez de Pauline Jaricot ici à Fourvière, est-ce que les gens la connaissent ?
Alors non, si les gens viennent justement, c'est qu'ils veulent la connaître. Mais c'est vrai qu'elle est mieux connue en Afrique, en Amérique, qu'en France, pour dire les choses comme elles sont.
Calculé en 2018, hein, ça attire à peu près 12 millions de chrétiens en Europe qui viennent par an, en fait, visiter la basilique.
Du temps de Pauline Jaricot, la basilique de Fourvière n'était pas encore construite. Seule la chapelle de la Vierge attenante existait. Pauline venait souvent y prier et c'est là qu'elle y fit vœu de chasteté.
Elle est venue ici en 1816, à Noël 1816. Elle avait donc 17 ans, se consacrer à Dieu, après une longue période d'attente, de réflexion, d'une vie un petit peu, vous savez qu'elle faisait partie de la classe bourgeoise lyonnaise, donc elle avait une vie d'une jeune fille un petit peu favorisée, elle était un peu coquette, elle le disait elle-même, mais sans plus, hein. Et puis elle était préoccupée, elle se demandait « mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Elle avait l'impression qu'elle perdait son temps. Donc elle vient à cette chapelle et c'est le début de sa démarche qui va suivre après, sa démarche de conversion.
quand on dit elle a fait vœu de chasteté perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle a fait une promesse dans son cœur ou finalement c'était devant témoin, comment ça s'est passé?
Elle a fait ça toute seule, comme une grande. Pauline Jaricot, c'est une femme très indépendante. Pour son 19e siècle, c'est ce qui a fait qu'elle a eu beaucoup de critiques, parce qu'elle avait quand même un comportement qui tranchait sur le comportement des jeunes filles de la bonne société. Donc elle avait vœu de chasteté. En fait, ce vœu de chasteté, c'est plutôt un vœu de consécration totale, hein, à Dieu et aux autres. Mais elle l'a fait toute seule dans son cœur.
Pourquoi on montait à Fourvière déjà à cette époque?
Fourvière, déjà, c'est une colline. Dans la psychologie des gens, monter sur une montagne, c'est se rapprocher de Dieu. Donc Fourvière, c'est vraiment le site où déjà dans l'Antiquité, il y avait un culte païen ici. Il y avait un temple païen sur la colline.
200 mètres en contrebas de la chapelle de la Vierge de Fourvière, en descendant vers le centre-ville de Lyon, se dresse la maison de Laurette. Une grande demeure achetée par Pauline Jaricot pour faire vivre ses œuvres. Aujourd'hui, une communauté religieuse y vit au quotidien. Quatre sœurs Dominie, de la famille missionnaire de Notre-Dame, ont investi cette maison de Laurette à l'été 2021. Sœur Pauline a choisi son nom de religieuse en référence à Pauline Jaricot.
En fait, notre charisme, c'est l'éducation des cœurs, c'est-à-dire que c'est très très large, pour surtout aider les personnes à développer leur foi et à se former à l'école du cœur de Jésus et de Marie. Donc c'est vrai que ça passe par la catéchèse pour les enfants, pour les adolescents, les jeunes, des groupes aussi d'approfondissement pour les adultes, et puis des retraites de Saint-Ignace, des journées de retraite pour les mamans, enfin différentes activités qu'on organise, des week-ends de récollection pour les jeunes, les adolescents, des camps l'été, des colonies, et puis aussi en dehors de tout ça, eh bien, on visite les malades, voilà, tout ce qui peut, dans tous nos contacts quotidiens, toutes les façons où on peut apporter l'amour de Jésus aux personnes qui nous entourent, que nous rencontrons.
Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ne connaissent pas cette maison de Laurette? Comment vous la présenteriez en quelques mots?
Alors en fait, déjà, c'était une maison que Pauline n'avait pas prévu d'acheter. Quand elle s'est convertie à l'âge de 17 ans, elle voulait vivre une certaine vie de pauvreté au milieu des ouvrières. Donc elle vivait très simplement après avoir quitté la maison de ses parents dans la presqu'île. Puis après, elle s'était installée dans une maison que son frère avait louée à l'emplacement de la basilique. Et c'est vrai que quand elle a fondé le Rosaire Vivant en 1826, ça s'est développé très très rapidement. Et elle a bien compris qu'il lui faudrait peut-être une infrastructure un peu plus importante. Mais c'était tout à fait imprévu, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec sa sœur Sophie, de laquelle elle était très proche, elle montait à Fourvière donc, au mois de mai 1832. Ils sont passés devant cette maison. Et sa sœur disait, c'est dommage, il y a une belle propriété, là, on pourrait peut-être couper pour rejoindre plus facilement... La basilique n'existait pas, donc pour rejoindre plus facilement la petite chapelle de la Sainte Vierge. Et puis il y a quelqu'un qui les a entendus dans la propriété, donc il leur a permis de traverser. Et qui leur a dit en traversant que la maison était à vendre. Donc sa sœur Sophie, qui était mariée avec un riche industriel, donc était très intéressée. Mais son mari n'était pas d'accord. Donc elle a poussé sa sœur à acheter la maison en lui disant que c'était vraiment l'endroit idéal pour développer le Rosaire Vivant. Et donc c'est ce qui s'est fait. Pauline a acheté cette maison. Donc elle a fait faire des travaux pendant un an. Et elle est venue s'installer ici donc, le 15 août 1833 avec les novices dont elle s'occupait à Nazareth. Elles sont descendues en procession de Fourvière jusqu'ici. Et donc, parmi les travaux que Pauline a fait dans cette maison, donc, il y a le fronton qui est donc juste au-dessus où elle a fait marquer « Au Marie conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Parce qu'elle voulait vraiment mettre cette maison sous la protection de la Sainte Vierge. Il n'y avait pas encore la statue dorée qui domine la petite chapelle de Notre-Dame de Fourvière. Et donc, elle voulait à la fois que la Vierge Marie protège la ville et à la fois qu'elle soit vraiment la maîtresse de cette maison pour diriger toute la mission et puis toutes leurs activités. Et leur petite communauté qu'elle appelait les filles de Marie.
Cette maison de Laurette appartient aujourd'hui aux OPM, les œuvres pontificales missionnaires, dont fait partie l'œuvre pour la propagation de la foi créée par Pauline Jaricot. Gaëtan Bouchard-La de Chazotte en est le secrétaire général.
Alors cette maison a pour vocation d'être un lieu de mémoire, de prière et de mission. De mémoire, c'est autour de la personnalité de Pauline Jaricot. De prière, puisque cette maison est confiée à une communauté religieuse qui y prie. Il faut qu'une vie spirituelle, il faut que ce cœur batte en fait, ce cœur de Pauline Jaricot dans ce lieu-là qui domine la ville. Et puis un lieu de mission, puisque nous souhaitons, à travers cette expérience de Pauline Jaricot, montrer l'activité missionnaire de l'Église aujourd'hui.
La visite se poursuit à l'intérieur.
Alors ici, on est à l'accueil de cette maison de Laurette et sous nos pieds, on voit des vestiges romains. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec ces vestiges ?
Alors effectivement, quand on a lancé le chantier de restauration de cette maison en 2003-2005, nous avons découvert que la maison était construite sur la voie romaine qui montait des quartiers fluviaux à Fourvières. Et ça nous a semblé intéressant à la fois pour les archéologues, mais aussi pour le sens de cette maison, puisque nous entrons dans cette maison par la voie par laquelle sont passés les premiers chrétiens qui ont été martyrisés, puisqu'ils ont été jugés au forum, c'est-à-dire à Fourvières, et ils ont ensuite été, pour la plupart d'entre eux, exécutés à l'amphithéâtre des Trois Gaules. Donc ça nous a enraciné cette maison dans le projet que nous étions en train de concevoir, de donner à voir la mission de l'Église aujourd'hui.
On monte aux étages ?
Allons-y.
Alors dans cette maison de Lorette, on passe son temps à monter et descendre.
Oui, alors effectivement, la maison est construite sur un des remparts de la ville ancienne et elle était relativement étroite et effectivement à flanc de la colline de Fourvières, donc on a pas mal d'escaliers. Alors, dans cette première salle, on parle donc de l'aventure de la propagation de la foi, l'initiative de Pauline Jaricot, qui veut aider les missions, qui en a entendu parler. Elle a un frère qui est prêtre, qui lui parle des missions, notamment des missions à travers les missions étrangères de Paris, dont l'œuvre de la propagation de la foi est restée très proche. Et elle va ainsi découvrir la vie missionnaire, ce qui se passe, pourquoi le missionnaire s'en va, qu'est-ce qui lui arrive en voyage. Beaucoup d'entre eux n'atteignent même pas le but de leur mission, puisque c'est difficile. Et elle se dit, il faut qu'on donne cette information, il faut qu'on prenne conscience de l'activité du missionnaire, de ce qu'il fait, qu'on prie pour lui et qu'on le soutienne. Et alors pour cela, il faut que la nouvelle se développe, donc elle va créer un réseau. Ce réseau, ce sera l'œuvre de la propagation de la foi. Alors pour son époque, ce sont des groupes de prières de 10 personnes, en demandant à chacun de créer un autre groupe, etc. Et on a ainsi des chefs de dizaines, des chefs de centaines, des chefs de milliers. Et à travers ce réseau, on transmet l'information sur l'activité missionnaire de l'Église et le bonheur d'annoncer Jésus-Christ aux quatre coins de la terre. Alors ça permet aux personnes de prier pour ces missionnaires. Et puis en contrepartie, on appelle à une collecte, un petit sou par semaine. Et cette collecte revient à un fonds commun qui est l'œuvre de la propagation de la foi.
C'était vraiment déjà pour l'époque le crowdfunding, comme on dit aujourd'hui.
Voilà, c'était les réseaux sociaux, etc. On est tout à fait dans l'actualité.
En quoi Pauline Jaricot, elle est particulière ? En quoi c'est une figure spéciale de l'Église ?
Elle est un vrai témoin pour son époque. Elle est fourmille d'idées, elle s'intéresse à toutes les questions de l'Église, les questions du monde en reconstruction. On est après la Révolution française. Et elle place en ligne de mire l'essentiel et qui est toujours le but de toute son action, à savoir l'annonce de l'Évangile. Et je pense qu'en ce sens-là, elle est intéressante parce qu'on peut être, nous, tentés à notre époque de nous intéresser à la question des soins, à la question de la recherche médicale, à la question du développement, à la question... Or, Pauline, finalement, va s'intéresser à toutes les questions de son époque, sauf qu'elle aura toujours comme finalité l'annonce de l'Évangile.
Alors on présente aussi ici une forme d'entreprise idéale qu'a imaginée Pauline Jaricot elle-même.
Oui, c'est-à-dire que Pauline, toujours dans son désir d'évangéliser, considère que le monde ouvrier de l'époque, on est en pleine industrialisation, avec des migrations depuis la campagne à la ville, ne peut pas recevoir l'Évangile dans la mesure où les conditions de travail sont celles qui leur sont proposées. Donc elle imagine, elle a un vieux plan dans sa tête de dire finalement, si on avait une usine modèle dans laquelle on pourrait catéchiser les ouvriers, ils iraient eux-mêmes catéchiser d'autres ouvriers dans d'autres usines. C'est toujours ce plan de multiplication. Et puis elle va répondre à un appel, on lui présente un complexe un peu industriel, on dirait ça comme ça aujourd'hui, des forges du côté d'Apt à Rustrel. Et elle se dit, c'est formidable, on va lancer ce projet là-bas. Donc elle confie cette affaire à deux escrocs qui en fait vont la ruiner. Pour elle, c'est une affaire capitaliste. Simplement. Mais comme c'est une femme qui est reconnue dans l'Église, qui est même un peu adulée, d'autres vont l'accompagner dans cette aventure de Rustrel. Et elle va, à la suite de cette faillite, considérer qu'elle a une dette d'honneur à rembourser par rapport aux personnes qui l'ont suivie dans cette aventure, même si chacun était responsable de ses placements. Et donc ça, c'est ce qui va l'occuper les 10 dernières années de sa vie.
Une fin de vie où Pauline Jaricot met un point d'honneur à rembourser l'intégralité de ses dettes. La maison de Laurette, c'est aussi la chambre de Pauline, un endroit où l'on vient aujourd'hui prier et se recueillir. Dans une vitrine, on peut admirer une petite croix toute simple, en carton, offerte à Pauline Jaricot par le Saint Curé d'Ars. Ces deux figures de l'église sont contemporaines et se rencontreront souvent. Une forme d'amitié spirituelle en naîtra. Pauline fait la connaissance de Saint-Jean-Marie Vianney dans la maison familiale des Jaricot à Tassin-la-Demi-Lune, dans la banlieue ouest de Lyon, où le futur curé d'Ars est vicaire. Sur cette maison est apposée aujourd'hui une plaque que nous lit Marie-Dominique Schmitz, arrière-arrière-petite-fille du frère aîné des Jaricot, Paul.
Dans cette maison, à l'ombre de ce clocher, de 1804 à 1820, joua, brilla, souffrit, pria et s'orienta vers les sommets Marie-Pauline Jaricot, fondatrice de la propagation de la foi. Et nous sommes au pied d'une tour qui était abritée par la propriété que les Jaricot avaient acquis au début des années 1800 et où Pauline a fait plusieurs séjours dans cette maison. Le séjour le plus marquant pour Pauline a été en 1814, où en aidant sa maman, elle est tombée d'un escabeau et elle a eu une maladie qui a touché ses nerfs et qu'elle a mis énormément de temps à guérir. Les médecins avaient conseillé de l'emmener à la campagne. Tassin était la campagne à l'époque. Donc elle est venue ici avec sa maman en 1814. Donc Pauline est venue se reposer dans cette maison et malheureusement, au cours de son séjour pour se rétablir, elle a perdu sa maman en novembre 1814, ce qui l'a profondément marquée. La maman de Pauline, Jeanne Nélatier, était elle aussi malade et dans ses prières, elle a demandé que sa fille soit sauvée. Elle a demandé à Dieu de reprendre sa vie pour que sa fille soit sauvée. Et en même temps, c'est Pauline qui raconte cela, elle aussi. Elle savait que sa maman était malade et elle a demandé à Dieu d'être appelée au profit de la guérison de sa maman. Et ce qui est remarquable, c'est que Pauline ici a passé un temps non seulement de repos pour sa guérison, mais surtout un temps de réflexion. Et elle a raconté dans ses écrits qu'à partir de sa première communion, elle avait vraiment le désir de rencontrer Dieu. Ça a toujours été sa ligne de conduite, rencontrer Dieu, l'amour de Dieu. Elle l'a écrit dans son livre « L'amour infini dans la divine Eucharistie » et le service de l'Église à travers les pauvres.
Une disposition d'esprit qui va se révéler lors d'une messe dominicale dans son église de quartier, dans la presqu'île de Lyon, l'église Saint-Nizier. Nous y retrouvons une arrière-arrière-arrière petite nièce de Pauline, Anne d'Harcourt.
C'est le lieu de sa conversion. Pauline avait 17 ans, elle était toute jeune encore. Elle a toujours été dans une famille chrétienne qui priait, qui mettait en pratique socialement déjà, même si elle était une des plus grosses fortunes de Lyon. Il y avait toujours des pauvres qui passaient, elle rendait beaucoup de services. Il y avait déjà un cœur ouvert à l'autre. Son père disait, il faut toujours se souvenir que je viens de la terre. C'est-à-dire qu'il était agriculteur, il était venu travailler à Lyon, parce qu'il était orphelin quand il a eu 15 ans. Il est venu travailler chez les Soyeux, et puis il est monté comme ça. Mais il voulait toujours se souvenir qu'il venait de l'agriculture, enfin qu'il était un paysan, avec toute la noblesse de ce nom. Voilà, donc Pauline, elle a une vie très facile, une enfance heureuse. À l'adolescence, on dirait qu'elle a fait tous les rallyes, elle avait ses belles robes de soie, etc. Mais elle était toujours tiraillée intérieurement parce qu'elle avait la foi. Elle était très fidèle, toujours très cohérente, mais elle était vive de sa propre vie, comme elle disait elle-même. Donc elle a, en carême 1816, grâce à sa sœur Sophie, qu'elle aimait beaucoup, elle est venue écouter une homélie du prêtre l'abbé Wurtz, ici à Saint-Nizier, qui a parlé sur la vanité. Et ça l'a complètement bouleversée. Elle dit que c'était vraiment le Seigneur qui a préparé son cœur à ce moment. Et à la fin de la messe, elle a été à la sacristie et elle lui a dit « Mais qu'est-ce que la vanité, monsieur l'abbé ?» Et il l'a regardée et elle s'est regardée. Et là, pouf, elle a tout compris. Elle a plongé vraiment profondément en elle. Et elle était déjà chrétienne, mais il y a comme un lien personnel avec le Seigneur qui s'est fait au profond d'elle. Et après, elle a complètement changé intérieurement. Voilà.
Intérieurement et extérieurement aussi, c'est-à-dire qu'elle a laissé tomber ses robes, ses belles robes, pour s'habiller comment ?
Eh bien justement, c'est ça, qu'elle a posé un acte concret, elle a enlevé sa robe de soie, elle a revêtu la robe des canuses, des ouvrières de son père, qui était une grande robe qui était brune avec un petit chapon violet, et puis un petit bonnet sur la tête et des socs aux pieds qu'elle avait pris un peu grands pour apprendre à marcher comme il faut, parce que c'était pas si facile que ça après les talons pointus. Et puis elle a gardé juste un petit collier. Elle a donné tout même ses petits romans, style Arlequin, elle a tout donné. Voilà. Elle a vraiment... Elle dit, si je n'avais pas fait d'un coup, jamais j'aurais fait. Jamais j'aurais résisté à cet attrait du monde.
Pauline Jaricot est enterrée aujourd'hui dans cette église de Saint-Nizier. Mais son cœur repose, lui, à quelques centaines de mètres, à l'église Saint-Polycarpe, en bas des pentes de la Croix-Rousse, la colline qui travaille. Pauline a connu de son vivant les révoltes des canuts, ces ouvriers de la soie. Aujourd'hui, l'orgue monumental de l'église Saint-Polycarpe garde un œil sur sa relique. La guide conférencière Cathy Campagnolo veille également au grain. Pour elle, cette église au pied d'un quartier ouvrier est le catalyseur de l'engagement social de Pauline Jaricot auprès des plus pauvres.
C'est une jeune fille qui est à l'écoute de son temps et qui veut répondre aux besoins de son temps. Elle ne traverse pas la ville en restant ignorante de ce qui se passe autour d'elle. Et en plus de ça, sa famille était très pieuse. Elle voyait bien chez elle que sa maman recevait des personnes qui étaient dans le besoin. Donc très tôt, elle a côtoyé la misère parce que, enfant, elle disait à sa maman « Oh, comme j'aimerais avoir un puits d'or dans lequel je puisse puiser afin qu'il n'y ait plus de pauvres. » Vous voyez, donc déjà, enfant, elle était sensibilisée à la pauvreté, à la misère, parce qu'elle voyait comment ses parents agissaient envers ces personnes. La misère était partout. Elle va, à partir de ce moment-là, avoir à cœur d'aider, d'essayer de remédier à la misère qui régnait dans cette classe ouvrière. Elle dira que plus elle les fréquentait, ces ouvrières, plus elle découvrait combien elles étaient ignorantes de la religion. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle avait décidé de les évangéliser. Mais au tout début, c'est d'abord les sortir de la misère, de les aider, et de les aider en leur donnant du travail et non pas en leur donnant l'aumône. C'était de vraiment leur redonner toute leur dignité humaine. Et comme elle s'est occupée de ces jeunes filles et qu'elle les évangélisait pendant qu'elle travaillait, elle les ramène petit à petit dans leur paroisse. Donc cette église Saint-Polycarpe va redevenir vivante grâce à Pauline qui ramène ces jeunes filles et ça va devenir la paroisse de cœur de Pauline. Parce que c'est avec toutes ces jeunes filles qui se sont attachées à elle, parce qu'elles ont vu que tout ce que faisait Pauline c'était par amour pour elle, elle s'est mise à leur niveau en s'habillant déjà comme elle. Elles vont devenir amies, ça va être réciproque. Hein. Et on comprend que c'est tout à fait normal que son cœur se retrouve là. C'est ici qu'avec toutes ces jeunes filles, elle va mettre sur pied ses collectes en demandant à ces jeunes filles « Voulez-vous prier avec moi toutes les semaines ici pour l'émission et puis donner un sou ?» Eh bien, ces jeunes filles, spontanément, ont dit oui. Elles étaient trop contentes, trop fières de participer à une œuvre. Elles, qui étaient pauvres, voulaient montrer que malgré cela, elles étaient capables de se priver pour participer à une œuvre d'église. Si bien que certaines disaient, maintenant, je ne louerai plus ma chaise le dimanche pour assister à la messe, je resterai debout. Une autre disait, désormais, je ne porterai un bonnet noir pour ne plus avoir le coup de la blanchisserie. Voyez ? Et puis, ça c'est un peu le génie de Pauline, c'est qu'elle a voulu mettre à la portée des plus humbles, finalement, ce qui était plus généralement donné à ceux qui étaient plus riches, disons, hein, parce que s'il y avait des dons à faire, les dons étaient plus donnés par les personnes fortunées qui avaient les moyens, plutôt que ces pauvres gens qui, eux, recevaient plutôt. Et là, Pauline, en leur demandant cela, elle veut leur redonner une certaine fierté. Malgré notre pauvreté, on est capable de participer à une œuvre d'église. C'est merveilleux de voir comment Pauline a su être à l'écoute de son temps, à l'écoute de ses pauvres gens et les comprendre. Et comprendre que ces gens-là étaient touchés que l'on puisse s'adresser à eux pour aider l'Église.
Chantez béni créateur, il faut une chasuble d'or. Pour chanter béni créateur, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons avons pour vous grande l'église et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus.
À la fois profondément mystique et dans l'action, née dans la richesse matérielle et morte dans la pauvreté, Pauline Jaricot a marqué la ville de Lyon et ses habitants à sa façon, celle de l'amour de Jésus. Avec sa béatification, l'Église universelle le reconnaît aujourd'hui. Anne d'Harcourt, l'une des descendantes de Pauline Jaricot.
Je pense que c'est une manière de dire que l'Église reconnaît en la personnalité de Pauline une aide pour notre temps. Donc une figure de sainteté pour notre temps. Parce que la béatification, c'est l'entrée à la sainteté. Enfin, elle est déjà sainte. Parce que justement, on oublie un peu Dieu aujourd'hui. On le met de côté, le surnaturel, on n'aime pas trop. Ben non, Pauline, elle avait justement cet équilibre entre le naturel et le surnaturel, entre le corps et l'âme. Elle voyait toujours l'homme en son entier. Elle supportait pas qu'on fasse souffrir des hommes et des femmes. Donc elle cherchait toujours un moyen de les aider. Donc je pense que c'est vraiment un signe pour notre temps. La prière, c'est très puissant. Je pense que Pauline, elle a puisé dans cette vie spirituelle la force pour d'abord pour continuer et vivre la fin de sa vie, parce qu'elle a vécu quand même un grand chemin de croix. Elle a été vraiment identifiée à la passion du Christ. Elle a été abandonnée par ses amis, elle a été traitée de tous les noms, on ne l'a pas cru. Enfin, cette figure de la femme à l'époque était difficile quand même. Je crois que pour les femmes, elle peut être une belle figure aussi, une belle figure de résistance spirituelle, mais naturellement, elle n'est pas militante au sens où elle avance, elle continue à avancer. Et ça, je trouve que c'est un... Et elle fait son chemin, et aujourd'hui, eh ben, on la découvre.
Gouverner, il faut avoir un manteau ou ruban en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir un manteau ou ruban en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
C'est